Louise Thibault, bonjour.
Oui, bonjour Marianne.
Eh bien, je pense qu'on peut l'affirmer. Votre livre dégage ça beaucoup, je trouve. C'est que vieillir, c'est probablement ce qu'il y a de plus démocratique, hein, parce qu'on y passe tous. Personne n'est épargné par le fait de vieillir. Et ce que l'on apprend dans votre livre, c'est que dès 20 ans, notre cerveau commence à vieillir. Donc, dès 20 ans, on devrait s'intéresser aux questions de vieillissement.
Absolument. En fait, dès 20 ans, il y a des signes de vieillissement dans notre cerveau. Mais le vieillissement, ça commence bien avant. En fait, je veux pas trop vous décourager, mais à partir de conception, il y a des cellules qui apparaissent et ces cellules-là vont être responsables des altérations qui nous préparent à vieillir. Alors, c'est tout au long de notre vie, finalement, qu'on vieillit.
Donc, on devrait... ou du moins on pourrait s'intéresser à la qualité de notre alimentation assez tôt. Et il n'est jamais trop tard, hein? C'est-à-dire que même si on a 75 ans, on peut commencer à s'intéresser à ce que l'on met dans notre assiette.
Absolument. En fait, quand les gens me demandent quand est-ce que je devrais commencer, je dis à tous et à toutes maintenant. Oui. Dès que vous avez en main mon livre électronique ou papier, regardez ce dont vous avez besoin pour garder un cerveau jeune, que vous ayez 20 ans ou même avant, 30 ans, 50 ans, 80 ans, 90 ans, il n'est jamais trop tard.
Oui. Souvent, lorsque l'on parle du processus de vieillissement, ce sont les signes extérieurs qui sont très visibles, les cheveux blancs, les rides, quelques douleurs aux genoux. Et ça, on s'y intéresse. Hein, et de plus en plus, on trouve des moyens. Là, disons que l'industrie de l'esthétisme nous en trouve aussi également. Toutefois, on s'intéresse peut-être moins à ce qui est non visible, ce qui se passe à l'intérieur. Comment ce processus-là influence notre cerveau, nos organes, Louise?
Mais en fait, oui, on est distrait, on est dérangé par ce qu'on voit, mais il y a aussi ce qu'on ressent. Hein, mm-hmm. les petites pertes de mémoire, problèmes de concentration, des fois on a l'impression qu'on n'est pas toujours apte à prendre la meilleure décision. Eh bien, ça, ce sont vraiment des signes de vieillissement du cerveau. Et on n'est pas tous égales face à ça. Hein. On voit qu'il y a des gens qui vieillissent bien, pas juste physiquement, mais cognitivement, dans leur façon de penser, de raisonner. Et ça, c'est dû au fait que certains de nous ont une meilleure réserve cérébrale, qu'on appelle aussi en recherche la réserve cognitive.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Et ça, cette réserve cognitive-là, elle est en principe, en fait, de façon, je dirais, secondaire ou principale, dépendant d'où on vient, due à nos gènes.
Mm-hmm. Donc, pas tous égaux devant le vieillissement, ça, on le comprend bien, mais en même temps, il y a des facteurs peut-être aggravants ou encore de protection.
Exactement. En fait, il y a le facteur héréditaire, mais de plus en plus, dans la recherche en nutrition, on identifie que l'alimentation, ce serait le facteur environnemental numéro un pour bien vieillir cognitivement.
Et là, c'est, je dirais là où votre livre devient de plus en plus pratico-pratique parce que vous énumérez des nutriments, ou du moins des éléments que l'on devrait inclure dans notre assiette. Et ça passe autant des antioxydants par les vitamines et les bons gras. Et on va en parler de ça, Louise Thibault, pour réellement donner des outils aux gens qui nous écoutent. Et ce qu'il y a d'intéressant dans votre livre, c'est que ça s'adresse, même si on parle de vieillissement, ça s'adresse autant des gens de 25 que de 75 ans. Vous parlez beaucoup d'antioxydants. Ils ont un rôle à jouer dans notre bien-être, mieux-être et dans le vieillissement aussi.
Oui, en fait, les antioxydants, ce seront des substances qu'on retrouve naturellement dans nos aliments. Mm-hmm. Et ce que ça fait, les antioxydants, c'est que ça diminue les dommages qui sont causés par l'oxydation. En fait, l'oxydation, ça implique des molécules d'oxygène qui, à un moment donné, deviennent très instables et vont endommager autant les cellules de notre corps que les cellules de notre cerveau. Alors, pour limiter les dégâts, on a trouvé dans la recherche qu'une alimentation qui était riche en antioxydants naturels avait un effet réel. Où est-ce qu'on les trouve, ces antioxydants-là? Ben, on les trouve, en fait, dans les aliments qui contiennent certaines vitamines, dont la vitamine A, la vitamine C,
ah oui,
la vitamine E. Les vitamines, en fait, ce sont les vitamines principales. Maintenant, il y a autre chose qui contient des antioxydants dans nos aliments, c'est ce qui leur donne leur couleur.
Et
on comprend que ce sont les pigments.
Mm-hmm.
Alors, plus les aliments sont colorés en bleu, en rouge, en orangé et même en blanc, les aliments de couleur chair, contiennent des pigments qui vont avoir des effets antioxydants.
Dans le thé vert aussi, je pense qu'on peut en retrouver.
Dans le thé vert, dans le vin, dans le raisin, même les arachides contiennent des antioxydants qui vont avoir des effets très, très positifs.
Et maintenant, Louise, on a parlé d'oxydation, si ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a des aliments qui entraînent davantage ce phénomène-là?
Bien, en fait, oui. Par ricochet, lorsque on se nourrit d'aliments qui contiennent peu d'antioxydants, mais aussi qu'on a une alimentation trop grasse, en gras saturé, entre autres, ça va favoriser le vieillissement, ça va favoriser non seulement l'oxydation, mais aussi l'inflammation des tissus.
OK. Donc, aliments transformés et, un manque d'antioxydants. Et justement, on va l'aborder, cette question des bons, des mauvais gras. C'est un passage qui, pour moi, était plus flou et je vous explique pourquoi. Parce qu'on parle beaucoup de l'huile de coco en ce moment, à quel point c'est une huile qui serait de qualité. Or, c'est pas nécessairement ce que vous mettez de l'avant, Louise Thibault, et je voulais vous entendre là-dessus, à savoir, est-ce que, on va parler des bons gras en général, mais l'huile de coco plus particulièrement, est-ce que ce serait dans quelle catégorie?
En fait, l'huile de coco, ça fait partie des gras qui vont favoriser le vieillissement du cerveau.
Ah oui, OK.
Les huiles de coco, même si c'est une huile végétale, elle contient beaucoup plus de gras saturés que les autres gras d'origine végétale. Donc, c'est pas parce que c'est végétal que c'est nécessairement bon pour vous.
Voilà.
L'huile de coco, mais aussi l'huile de palme.
Oui.
Les huiles qu'on devrait éviter le plus possible. On les achète pas nécessairement en bouteille, ces huiles-là, mais elles se retrouvent dans énormément d'aliments transformés. Pour plusieurs raisons. Une raison, c'est que ça coûte pas très cher. Et la deuxième raison, c'est que comme ce sont des gras qui sont plus saturés que les autres gras végétaux, ils vont donner aux aliments une texture plus ferme à la température de la pièce. Donc ça, pour la texture, c'est bon.
Oui. Donc, huile de palme, huile de coco, peut-être à diminuer ou à complètement éliminer du régime alimentaire, mais il y a des bons gras et il faut en manger, peu importe là qu'on soit jeune ou un petit peu plus âgé.
Oui, il faut en manger. En fait, notre cerveau est composé là à un peu plus de la moitié de gras. Le gras dans notre cerveau, là, il fait partie de nos cellules. Le gras, c'est une espèce d'isolant dans nos membranes cérébrales qui nous permet de bien penser, de bien raisonner. Alors, on peut pas couper le gras de son alimentation. C'est pas bon pour notre cerveau. Les bons gras, eh bien, les gras qui ont été associés à en fait, un risque accru de développer des démences dans la maladie d'Alzheimer, ce sont les gras saturés. Ça, c'est les gras animaux. Et aussi les fameuses huiles de coco et de palme.
Oui.
Les autres gras dont il faut se méfier, c'est les gras trans.
Que l'on retrouve dans les croustilles, par exemple.
Dans les croustilles, oui. En fait, dans tous les aliments qui contiennent des gras qu'on dit hydrogénés. Donc, l'hydrogénation, ça permet de garder un gras ou une texture là qui est vraiment le plus solide à température de la pièce. Donc, pour l'industrie, la transformation des aliments, c'est un plus. Mais pour nous, c'est un moins.
Oui. Sinon, les bons gras dans les avocats, les poissons. D'ailleurs, vous parlez beaucoup de tout ce que l'on retrouve dans l'eau, dans la mer, à mettre de l'avant dans l'alimentation. On trouve des bons gras dans le poisson.
Oui, en fait, dans les poissons, mais pas tous, dans les poissons qui sont riches en gras.
Oui.
Les poissons qui sont riches en bons gras. Et là, on parle de saumon. Que ce soit saumon d'élevage ou saumon sauvage, ça contient les mêmes bons gras, le hareng. Ceux qui aiment les sardines, bien, continuez de les aimer, c'est bon pour vous. La truite arc-en-ciel, le maquereau, qui est un poisson auquel on est peut-être moins habitué.
Oui, c'est vrai.
Qui devrait retrouver sa place dans nos assiettes.
Oui. Donc, on n'a pas à couper les bons gras de notre assiette. Il y en a, dans les noix aussi. Il y a un aspect très intéressant dans votre livre aussi, Louise Thibault, et c'est rare que l'on en... Je dis intéressant parce que rare que l'on mette de l'avant ou que l'on parle aussi clairement, aussi profondément de ce point, c'est de diminuer l'apport calorique, ce qui pourrait nous permettre de vivre plus longtemps.
Et oui, en fait, ça, là, c'est une découverte qui a été faite il y a très, très longtemps. Et puis, il y a même plus environ 80 ans. Depuis tout ce temps-là, on sait ça. On sait que ça fonctionne très bien chez les animaux de laboratoire. Les animaux de laboratoire dont on coupe l'apport calorique d'environ 50% vont vivre beaucoup plus longtemps. Mais chez nous, qu'est-ce qui se passe chez les humains? En fait, il y a eu des études. Mais les études sont pas toujours concluantes, dépendant de où elles ont été faites. Une chose ressort cependant, c'est que manger moins, même si on mange 10% de moins nos calories, 5%, 15%, ça pourrait nous aider non seulement à vivre plus longtemps, mais à vivre mieux.
Oui.
Et ça, ben, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement. Moi, je ne dis pas qu'il faut couper notre apport calorique de moitié. C'est trop drastique et ça peut avoir des effets néfastes. Mais manger un peu moins. Et j'ai des petits trucs dans mon livre pour manger un peu moins que j'aimerais partager avec vous et vos auditeurs et
Oui.
auditrices. En fait, un truc pour manger moins, c'est de ne pas sauter de repas.
Oui.
Ça fait drôle à dire, là. Mais manger nous permet de manger moins parce que quand on saute un repas, là, ben, on va grignoter. Puis on va manger beaucoup plus à l'autre repas. Alors finalement, au total, on mange plus. Si on a le choix entre des grandes assiettes, des moyennes assiettes, des petites assiettes, ben, on devrait aller vers les moyennes et les petites assiettes.
Oui.
On a l'impression qu'on mange assez. Petit verre de vin. On va avoir l'impression qu'on boit assez. La distraction. Manger devant son ordinateur, manger en regardant la télé ou même en lisant va nous faire manger plus
Oui.
parce qu'on va être moins attentif à nos signaux internes. En fait, j'en parle un peu dans Manger pour garder son cerveau jeune, mais j'en parle beaucoup plus dans mon livre précédent qui s'appelait Quand le corps n'en fait qu'à sa tête, découvrez ce qui vous pousse à manger. Là, j'ai des chapitres sur ça. Donc, si vous êtes intéressé, ben, vous pourriez consulter cet ouvrage-là.
Pour diminuer notre apport calorique, chose que
Oui.
l'on peut faire dès que l'on entend cette entrevue, Louise.
Oui, absolument. Écoutez pas l'entrevue en mangeant.
Non.
Pause à la fois. Concentrez-vous. Il y a quelque chose qui est très, très en vogue, c'est la pleine conscience.
Oui.
Et quand on dit manger en pleine conscience, moi j'y crois beaucoup, c'est manger en pensant à ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, c'est manger. Quand on pense à plein d'autres choses, eh bien, on n'est pas attentif à nos signaux et notre corps, lui, va en redemander. Notre corps et notre cerveau, évidemment.
Une façon de reconnaître de façon plus adéquate les signaux de satiété. Peut-être un ou deux derniers points avant de terminer, Louise, c'est-à-dire les modes de cuisson aussi qui pourraient avoir un impact sur, ben, sur le processus de vieillissement.
En fait, les modes de cuisson auxquels on devrait s'attarder pour garder ces bons antioxydants qu'on a dans nos aliments ainsi que nos gras, c'est cuire le moins possible.
Ça, on l'a entendu souvent, mais c'est bien de le rappeler parce que on oublie, on a tendance à trop faire cuire le poisson, notamment. Vous en parlez dans le livre. Bon, on a peur que ce soit pas assez cuit quand il faudrait peut-être le cuire un peu moins qu'on a tendance à le faire.
Oui, en fait, le poisson là, qui est trop cuit, il va être sec.
Oui.
Alors, c'est bien de garder une petite tendreté là, au milieu du filet de poisson. Le filet de poisson a pas besoin, peut rester un petit peu translucide au milieu et c'est très bien.
Ah oui.
J'aimerais vous parler des légumes. Les légumes, essayez de les cuire entiers le plus possible. Coupez-les en gros morceaux. Prenez pas beaucoup d'eau. Cuisez à la vapeur, au micro-ondes. Pensez aussi que la cuisson des aliments peut avoir un effet positif sur l'absorption de certaines vitamines. Pensez aussi que manger un peu de gras dans votre assiette va augmenter l'absorption de certains antioxydants naturels comme le lycopène. En fait, le lycopène, c'est le pigment rouge des tomates. Eh bien, ce pigment-là va être absorbé plus en présence d'huile. La même chose pour la vitamine K. On n'en a pas parlé de la vitamine K. C'est une vitamine qui se retrouve dans les légumes verts, feuillus. Eh bien, la vitamine K, c'est très important pour le cerveau qui vieillit bien, qui reste jeune. La vitamine K et les graisses alimentaires, c'est un très bon ménage.
Mm-hmm. Et on en parlera aussi d'alimentation en deuxième partie d'émission, vous savez, parce que André Lavoie me disait un petit peu plus tôt la semaine dernière que l'alimentation, c'est un facteur de prévention très important en ce qui a trait à la dégénérescence maculaire. Et il y a même des débats aussi à savoir si des suppléments vitaminiques pourraient être adéquats pour des personnes à risque. Vous, en général, les suppléments vitaminiques, de vitamines, vous en pensez quoi?
En fait, moi, ce que j'en pense, c'est que, à moins qu'on ait une condition médicale qui requiert de prendre des suppléments, faudrait s'en abstenir.
Ouais, et retrouver ces vitamines, celles que vous avez mentionnées tout à l'heure dans notre assiette.
J'aimerais ajouter qu'il y a beaucoup de suppléments d'antioxydants qui sont en vente sur le marché présentement. Restez loin de ça.
OK. Louise Thibault, vous êtes l'auteur de Manger pour garder un cerveau jeune et également, je le disais tout à l'heure, docteur en nutrition. Je ne l'ai pas sous les yeux. Docteur en nutrition et puis, ah oui, je l'ai, pardon, et professeur agrégé à l'École de diététique et de nutrition humaine de l'Université McGill. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et puis, votre livre a été très agréable à parcourir, Louise Thibault.
Bien, le plaisir a été pour moi.
Au plaisir.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.